Bonjour à tous. Le temple du jeu, c'est le nom que Pierre-Yves Franzetti a donné à l'espace qu'il a créé dans le quartier sud-ouest de la ville de Sion. Le grand public y est invité à faire des jeux de plateau, des jeux de rôle ou des aventures en situation. En deuxième partie d'interview, vous entendrez le témoignage de Charlotte Zanin, qui assure la direction exécutive du temple du jeu. Au bénéfice d'une formation dans le monde du théâtre, elle nous expliquera comment elle aide les participants à mieux entrer dans le rôle qui leur est imparti. La parole est d'abord donnée à Pierre-Yves Franzetti. En préambule, il nous explique comment il a commencé à se passionner pour le monde du jeu.
Alors j'étais baigné depuis tout petit dans le monde du jeu. J'étais déjà un grand joueur et puis je crois que ça devait être déjà en 2000 ou même peut-être avant. Je me suis inscrit au club du génie de la lampe, qui est le grand club de jeux de tiers, dans lequel j'avais beaucoup de plaisir et avec lequel on organisait ce qui a été au début la nuit du jeu, les 24 heures du jeu. Après c'est devenu Polygames et puis sous mon ère de présidence c'est devenu la fête du jeu.
Ses études terminées, Pierre-Yves Franzetti est devenu militaire de carrière. Un peu plus tard, en 2012, il a démissionné pour se consacrer uniquement à l'univers du jeu. Mais comment s'est passée cette transition? Voici sa réponse.
Alors, j'ai demandé, parce que comme militaire de carrière, mais je crois dans à peu près toutes les professions, si vous faites une activité annexe, vous devez demander l'autorisation. Donc j'ai fondé Helvetia Games, ça devait être le 28 février 2012. J'étais toujours employé de la Confédération à ce moment-là, et j'avais demandé de faire ça comme activité annexe. Au fait, il ne m'était pas apparu que je pourrais en vivre. Mais très vite, j'ai remarqué que les deux professions, celle d'indépendant dans n'importe quel métier, ou celle de militaire de carrière, qui était très chronophage, elles ne pouvaient pas aller ensemble. Donc à un moment donné, il a fallu que je me décide. Soit j'investissais 80, 90, 100, 150% de mon temps dans une activité pour la faire fleurir, au détriment de l'autre, soit j'en abandonnais une, parce que les deux en parallèle, c'était vraiment pas possible. Et en fait, la décision, elle est venue assez vite. C'est quand j'ai travaillé sur les deux premiers jeux, et ben, je finissais comme militaire de carrière, je sais pas, à 22h, et puis je travaillais sur les jeux de 22h à 4h du matin, puis à 6h, je reprenais. Et puis à ce rythme-là, ben, vous tenez pas très très longtemps. Donc je crois qu'en juin, j'ai quand même réfléchi à me dire qu'est-ce que tu fais vraiment. Et j'ai donné ma démission en août, parce que vous savez que l'armée, c'est une sorte de famille. Donc ça a été dur hein, de quitter l'armée, parce que je ne savais pas comment le leur dire. Et puis je me suis dit, mais c'est tous les gens avec qui j'ai vécu 13 ans. J'ai beaucoup appris, je renie alors pas du tout mon passé. D'ailleurs, tout le métier d'entrepreneur, je l'ai appris aussi avec eux. Donc ça a été dur, mais vous voyez, en février, je fonde la société. En juin, je me pose des questions. En août, je démissionne. Après, j'ai 6 mois de préavis et je quitte l'armée en mars.
Est-ce que c'était la boule au ventre? Parce que quand même, c'est un risque financier.
Depuis tout petit, j'ai toujours vécu avec peu d'argent. Donc j'avais fait mes études un peu à l'arrache. Là, je parle financièrement. L'armée m'avait restabilisé. Puis je commençais à gagner un peu d'argent. Donc je m'étais dit, tiens, c'est le moment idéal pour partir. Je ne me suis pas encore habitué à pouvoir payer mon loyer au jour le jour, enfin, etc. Donc, je crois que c'était le bon moment. J'étais encore capable de prendre des risques. Peut-être que 10 ans plus tard, je me serais un petit peu endormi.
Pierre Franzetti, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter les divers types de jeux que vous proposez dans votre entreprise?
Alors, on a développer à peu près tout ce qui était possible et imaginable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a commencé avec le jeu de société, avec le jeu de plateau, tel qu'on l'appelle. Et puis aujourd'hui, 7 ans plus tard, on essaye de proposer toute la gamme. C'est-à-dire qu'on va du jeu pour enfants, en passant par le jeu de plateau, en allant via le jeu de rôle sur table, d'aller jusqu'au jeu de rôle pas sur table, ce qu'on appelle les escape rooms, le grandeur nature, les murder parties, pour aller en plus jusqu'à l'autre extrême qui est les soirées dont vous êtes le héros, les soirées dont vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer, vivre une aventure dans la vie réelle. Et on essaye, via ce temple du jeu, de proposer toute cette gamme, que vous soyez jeune, moins jeune, expérimenté, amateur, que vous soyez juste curieux, on essaye de trouver, allez, chaussures à votre pied en matière ludique.
La dernière catégorie, les soirées dont vous êtes la star, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit?
Alors notre idée, c'est vraiment de prendre quelqu'un d'ordinaire et de lui faire vivre une vie extraordinaire pendant un temps qui est limité. Donc vous arrivez ici, bien sûr on a choisi le jeu ensemble, on sait à peu près où on va, mais on va vraiment vous donner un nouveau costume que ce soit en figuré ou vraiment, il y a des jeux qui vont jusqu'à changer de maquillage, changer de coiffure, etc. Et on vous donne le rôle d'une autre personne que vous allez jouer pendant 2 à 6 heures, à 8 heures, ça dépend, c'est vraiment fait sur mesure, donc tous les jeux sont...
En restant ici, dans vos locaux?
Ça dépend du jeu, il y a des jeux qui se vivent dans la ville de Sion, il y a des jeux qu'on délocalise parce que c'est dans des lieux magnifiques, comme dans un château moyen médiéval par exemple, mais la plupart du temps, effectivement, on essaye de rester dans nos locaux parce qu'on a tout le matériel qui permet de rendre la soirée immersive. Que ce soit les décors, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit les tables de maquillage, enfin tout ce qui nous permet de faire du jeu qui soit très très immersif et que vous perdiez pied dans la vie réelle pour vivre une vie d'aventurier ou de policier ou de gars d'un film pendant une durée qui est limitée dans le temps. Et c'est vraiment l'idée, c'est de vous faire basculer.
Donc là vous avez une possibilité infinie de personnages.
Oui, par contre ce qu'il y a d'intéressant c'est que dans l'entreprise, on a deux figures fortes. La première, c'est finalement moi qui vais travailler énormément sur les mécaniques qui vont permettre de faire de ça un jeu, parce que ça n'est pas une pièce de théâtre. J'entends, c'est vraiment, il y a des mécaniques de jeu qui font que ça marche, et on utilise ces mécaniques-là qui sont très très originales. Et je me suis associé dans cette création de jeu avec Charlotte, qui vient du monde du théâtre, et en particulier du monde du théâtre d'improvisation, qui m'amène aussi toute la partie... technique de jeu d'acteur qui nous permet de le faire jouer à n'importe qui, parce que c'est assez fascinant de voir que des gens, c'est souvent la première remarque, c'est moi j'ai jamais fait de théâtre, ou moi je suis timide, ou moi je sais pas, mais en fait le briefing nous permet, et puis ces techniques d'acteur, ces techniques de jeu, ces techniques ludiques nous permettent de les faire basculer sans qu'ils s'en rendent compte, et le jeu marche très bien grâce à ça, et donc c'est pas aussi évident que ça. J'entends, c'est pas, vous venez pas à une pièce de théâtre où vous lisez un texte, c'est vraiment vous êtes dedans. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a des pauses dans nos jeux. Et souvent, à la première pause, le voile n'est pas tout à fait brisé encore. Mais à la deuxième pause, Paul, Jean ou Jacques, ils ont laissé la place à Roger, à Alfredo ou à un autre personnage. Mais ils n'arrivent même plus à se voir comme l'ami ou le cousin avec qui on partage d'autres choses d'habitude. Et c'est assez rigolo de voir que ouais, ça marche assez bien.
Vous nous avez parlé du jeu de la fête des vignerons. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez été les voir, ou c'est eux qui vous ont demandé?
Non, alors on a été contacté par la fête des vignerons. Ils voulaient un jeu pour être le produit dérivé ou le produit comment on appelle ça, les produits qu'on peut acheter en souvenir, etc. Ils voulaient un jeu sur la fête des vignerons.
Et donc c'est un jeu de plateau. Hein.
C'est un jeu de plateau, ouais. Et ils avaient pas mal de lignes directrices. Ils voulaient que ce soit un petit jeu, que le prix de vente soit à peu près celui qu'il est. Ils voulaient qu'il soit très joli. Ils voulaient qu'il y ait la reine dedans. Ils voulaient qu'on puisse le transformer assez rapidement dans une variante à boire, qui n'a pas eu lieu finalement. Mais donc il y a eu pas mal de servitudes. Là, on a fait un appel aux auteurs en demandant à des auteurs s'ils avaient un jeu qui respectait un certain format.
Qu'est-ce qu'on entendait par auteur ?
Des gens qui ont créé des jeux.
D'accord. Ouais.
Donc on a fait vraiment un appel à des créateurs de jeux. Ouais. On en a reçu une bonne quinzaine. Sur cette quinzaine, moi-même, j'en ai sélectionné 5. Thématiquement, ils étaient très très loin de la fête des vignerons. Par contre, mécaniquement, il y avait des choses vraiment, vraiment géniales. Après, on s'est vu avec la fête des vignerons. Ils ont choisi parmi les 5 celui qui leur plaisait le plus. Et puis après, avec l'auteur du jeu qui s'appelle Florian Fay, on a vraiment travaillé sur le développement du jeu pour que la thématique de la fête des vignerons puisse apparaître dans le jeu. Et vous voyez, on a commencé le projet, je pense, en mars 2017. Pour une sortie en avril 2019. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de travail sur le jeu de la fête des vignerons. Et on en est très fiers.
Combien d'heures vous travaillez par jour en moyenne?
Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais quand on aime, je dirais que ma journée se compose de 8 heures de sommeil.
Quand même.
Le reste, c'est que du travail. Mais donc 24 moins 8, ça fait 16. Donc je travaille 16 heures par jour, mais il y en a 2 que j'aime pas. Ou je fais quelque chose que j'aime pas. Après, il y en a quand même une bonne quatorzaine où je m'amuse.
Vous avez eu quand même des périodes d'énorme fatigue ou pas du tout?
Si, mais ça vient régulièrement. Ça vient régulièrement. Il y a toujours des gros projets, il y a toujours des gros risques. Il y a très très souvent beaucoup de stress. On ne sait pas trop où on va. Donc, il y a des périodes d'incertitude, il y a des périodes de grosse fatigue parce qu'il faut vraiment. Je me souviens, ben, vous vouliez des anecdotes. Je me souviens d'une anecdote assez simple, c'est que quand on a sorti le premier jeu. En fait, j'étais pas très habitué à la phase de production. D'ailleurs, Chafosa, qui porte le tome 2, mais qui est en fait notre premier jeu, parce que c'est le premier qu'on a édité, et on voulait absolument qu'il soit pas le numéro 1, parce qu'Helvetia Cup était plus représentatif du monde d'Helvetia, donc on voulait que Helvetia Cup soit le numéro 1. Mais le premier jeu que j'ai édité, c'est Chafosa. Et Chafosa, ben, j'avais tout loué à Essen, qui est le plus grand salon du jeu, donc les meubles, le
Donc, SN en
stand,
Allemagne.
Essen en
Oui,
Allemagne, ouais.
oui.
Et c'était en octobre. Et ça coûtait une blinde, hein. Pour celui qui débarque, c'était vraiment beaucoup d'argent. Et au fait, aujourd'hui, si vous allez à Essen puis que votre jeu il est pas sorti, c'est pas grave, vous en avez 8 autres à montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la première fois, si vous n'avez pas de jeu, au fait, vous servez à rien, votre stand il sert à rien. Et au fait, le jeu n'était pas prêt, donc on a dû les faire arriver par avion. Ben, d'ailleurs, on a beaucoup critiqué la colorimétrie et le graphisme de Chafosa, et oui, alors c'est une erreur de débutant, parce qu'en fait, le bon à tirer, il n'a jamais eu le temps de venir de Chine jusque chez moi, donc on l'a fait par vidéo interposée avec des Chinois, et puis je regardais, puis ça me paraissait bien, puis j'ai dit, mais au fait, d'un côté, soit je perds tout ce que j'ai mis dans SN, donc les hôtels, le prix des machins, les auteurs qui viennent, les avions, parce qu'au début, nous, on pensait qu'il fallait faire ça de façon très très classe, alors après, on a trouvé des moyens de faire moins cher, mais ça coûtait vraiment une blinde et je perdais tout ça. Ou alors le jeu, ben, il sortait dans l'état où il est sorti, puis on essayait de s'en sortir avec ça. Et ça a été une anecdote qui m'a coûté cher en réputation, parce qu'effectivement, Chafosa est peut-être le jeu le moins bien édité. Là, je parle de la qualité du carton, des images, etc. On a été beaucoup plus fort sur un Sabbat Magica ou sur un Unita, où là, vraiment, on a pris le temps. Et ça a été ma première leçon, c'est de jamais sortir un jeu dans l'urgence, mais de le sortir quand il est prêt.
Par rapport à votre vie de famille, question un petit peu plus personnelle, est-ce que votre travail, c'est un immense avantage parce que vous adorez ce que vous faites, ou est-ce que parfois c'est quand même difficile parce que justement c'est très 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 chronophage et...
Non, alors c'est plutôt un avantage. Et comme disait ma fille quand elle est venue là pour la première fois au salon à Essen, elle disait, ben, moi j'aime bien que tu fasses du jeu parce que si tu vendais des habits, je viendrais moins souvent avec toi sur les salons. Donc il faut voir que cette passion-là, on la partage aussi en famille. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que mes enfants passent par le temple du jeu, ne serait-ce que pour faire un jeu, pour faire une heure de prison. Ils ont énormément de plaisir à venir. Je pense qu'on joue entre une et deux fois par semaine ensemble.
Vous testez aussi les jeux en famille.
Alors bien sûr, et c'est mes plus grands testeurs sur les jeux qu'on édite, parce
Et
que
bien sûr, ils sont
après.
critiques, ils disent ça j'aime pas, ça c'est ça il faudrait améliorer.
Alors ils ont leurs critiques à eux. Et honnêtement, elle est pas du tout. C'est pas du tout une béatitude face à papa qui a fait un jeu. Non, non, ils ont un vrai esprit critique. D'ailleurs, il y a de nouveau une anecdote assez drôle, c'est que dans Unita, il y a une carte pouvoir qui s'appelle le petit train. Et c'est vraiment Simon qui avait 6 ans qui m'a dit, mais papa, on pourrait faire ça, ça serait dingue. Puis j'ai dit, ah mais ouais, c'est trop bien. Alors on a fait cette carte pouvoir qui est dédiée à mon fils de 6 ans et qui en est encore très fier aujourd'hui. Mais effectivement, c'était une super idée qu'il avait eue là. Ça nous permet aussi de passer très dur de mettre l'âge sur la boîte. Puis je sais pas si vous savez, mais il y a une différence entre les Européens et les Américains, c'est que en Amérique, l'âge sur la boîte, c'est l'âge jusqu'auquel il n'est pas dangereux, c'est-à-dire jusqu'auquel vous pouvez manger des pièces sans mourir. C'est pas un âge intellectuel qui vous dit que vous avez les aptitudes intellectuelles à jouer à ce jeu. En Europe, c'est vraiment plutôt les aptitudes intellectuelles, c'est-à-dire que c'est pas le contenu de la boîte qu'on met sur la boîte, c'est est-ce que votre enfant de 8 ans, il va réussir à y jouer? Et ça, c'est très difficile pour nous. Il faut savoir que ça a une incidence aussi sur les tests que vous devez faire, sur la peinture, sur le contenu de la boîte, pour pouvoir la mettre en vente. Donc c'est clair que la loi est plus difficile pour les jeux de 3 ans et plus que pour les jeux de 16 ans et plus. Voilà, on a un jeu par exemple où on aimerait utiliser une astuce chimique pour transformer la couleur de l'eau. Ben, ça nous pose énormément de problèmes pour le mettre dans la boîte, parce que c'est des produits qui sont toxiques, et on ne veut pas mettre de produits toxiques dans la boîte, donc on a trouvé comment le faire en vrai. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à éditer un jeu avec des produits toxiques dans une boîte, je ne suis même pas sûr que j'ai le droit, donc on est en train d'essayer de voir avec des chimistes, avec des gens dont c'est le métier, s'il existe une variante de ce ce phénomène qu'on pourrait utiliser avec des produits non toxiques, du genre un sirop grenadine non coloré, là, sans colorant, qui, quand on mettrait une goutte de quoi que ce soit, se colorerait. Mais on n'a pas encore trouvé l'astuce telle qu'on la veut pour la mettre dans le jeu. Donc vous voyez, ça pose aussi des problèmes un peu, un peu annexes aux jeux de société.
Et qui sont passionnants à résoudre.
Oui, alors c'est un, je vous dis, moi je suis très centré sur le but, quoi. Le but, c'est pouvoir mettre en vente une boîte qui comporte aucun risque pour personne, parce que le but, c'est d'amuser les gens et pas de leur dire de faire attention à tout avant qu'ils puissent jouer. Okay. L'idée, c'est qu'ils ouvrent la boîte et qu'ils soient heureux.
En attendant de passer à la deuxième partie de ce reportage, je vous propose une petite pause musicale. On écoute maintenant Charlotte Zanin qui nous fait tout d'abord visiter le temple du jeu.
Vous êtes là dans le hall d'entrée. Vous avez le bar à jeu, donc c'est plusieurs tables, cinq grandes tables avec une bibliothèque qui doit répertorier à peu près 1000 jeux, entre des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, des jeux de rôle. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez venir entre amis, en famille, pour jouer et puis pour boire des verres, un endroit qui soit vraiment convivial.
Donc on peut tester un petit peu tous les jeux qu'on veut.
Exactement, et en principe, il y a quelqu'un aussi qui est là et qui peut vous expliquer les règles, qui peut vous orienter. On a fait un menu des jeux, si vous voulez, où vous pouvez vous orienter vous-même, si vous cherchez des jeux d'ambiance, si vous cherchez des jeux à deux, si voilà. On veut vraiment que ce soit un endroit qui soit convivial et aussi démocratiser un petit peu le jeu de société. On sait que c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup et que les gens ont plaisir à se retrouver.
Est-ce qu'on peut venir n'importe quand ou est-ce qu'il faut s'annoncer ?
Alors non, au bar à jeu, vous pouvez venir n'importe quand. Il est ouvert du mercredi au dimanche. Et c'est un des seuls bars, à notre connaissance, qui est ouvert vraiment du mercredi au dimanche. Et vous pouvez jouer à toute heure. De 10h à 19h le mercredi et le dimanche. Et de 10h à 23h le jeudi, vendredi, samedi.
Alors il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres types de jeux que vous présentez ?
Oui, alors dans ce hall qui est là à plein de tables, quand on a une soirée privatisée, on la transforme en lieu où vous allez jouer à nos jeux immersifs. Voilà, parce qu'on crée également des jeux, des scénarios, si vous voulez, où on vous plonge, vous, dans des scénarios. Alors si je vous donne un lieu commun... on a un jeu qui s'appelle Hold Up, qui est un petit peu aux allures de la Casa del Papel, où vraiment vous avez cambriolé la banque cantonale du Valais, puis vous vous retrouvez ici, vous avez un rôle et vous avez des traîtres parmi votre équipe et il va falloir démasquer qui c'est. Vous avez 2 heures pour trouver qui est le traître dans votre équipe. Et on a à peu près une dizaine de jeux comme ça qu'on fait jouer ici aux gens qui le désirent. Et on a aussi quelques jeux en extérieur, où là, la ville devient notre terrain de jeu.
Alors, si on reprend l'exemple de Hold Up,
oui.
Comment est-ce que je sais, moi, quel rôle je dois jouer ? Est-ce que je reçois à l'avance, à la maison, le rôle que je dois jouer ou...
Non, alors on n'envoie pas avant, pour des raisons de confidentialité et aussi pour que vous ayez la surprise sur le moment. En principe, tous nos jeux ont une demi-heure, voire une heure de briefing avant, enfin au moment où vous arrivez. Là, vous recevez votre carte personnage, vous recevez toutes les infos nécessaires. On vous explique le jeu, on vous explique les règles. En principe, il y a aussi la possibilité de manger en même temps, de se restaurer, boire des verres et tout ça. Et puis à ce moment-là, le jeu commence. C'est soit Pierre-Yves, qui est le CEO de la société, soit moi qui faisons les maîtres de jeu. Et voilà.
Quel est votre public principal pour ces jeux ? Est-ce que c'est plutôt des gens, on imagine que c'est plutôt des gens assez jeunes ?
Alors, donc ils sont destinés aux adultes. Ils sont vraiment destinés aux adultes, à partir de... Ouais. Peut-être à partir de 16 ans, des fois, certains jeux sont faisables, mais comme on essaye de ne pas avoir de tabou, on dira, de vraiment immerger dans des univers très spéciaux, c'est pour les adultes. Alors après, il y en a beaucoup d'entreprises aussi qui veulent faire des sorties un petit peu originales, qui décident de faire ça. Et sinon, alors là, ça va vraiment de tous les âges. Je crois que... On a un public qui est assez large, c'est des fois des sorties de famille où ils décident à 20 comme ça de venir jouer les protagonistes d'un procès. On a un jeu voilà, qui s'appelle La Conicine qui est un grand procès et là on a souvent des sorties de famille aussi ou des enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille, donc c'est très varié.
Alors on constate que vous avez des jeux où il y a quand même une thématique assez difficile avec des enquêtes à résoudre à propos d'un crime, etc. Puis il y en a d'autres qui sont quand même plus soft, on dira.
Oui, qui sont plus drôles, qui sont plus fun. Par exemple, Director's Cut, qui est un petit jeu qui peut se faire à partir de 4 personnes, pour l'apéro, par exemple, où l'idée, c'est que vous choisissez un film connu et vous faites le remake avec nous et le maître de jeu est en fait un réalisateur absolument imbuvable qui va vous forcer à refaire les scènes et ça donne quelque chose de très très fun, vraiment, et tout est dans l'imaginaire et on a de la peine à se représenter ce que ça peut être, et c'est vraiment des jeux où il faut le vivre, on a de la peine à l'expliquer, vraiment, voilà, et souvent... Souvent, les gens ressortent de là. Nous, ce qu'on veut faire vivre, c'est une expérience émotionnelle aux gens. Voilà. On veut vraiment leur faire vivre des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vécues. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais des émotions qu'ils n'auraient peut-être pas vécues dans la vie de tous les jours. Jouer des rôles. Je pense qu'on a tous, à un moment, voulu jouer le rôle d'un espion, s'imaginer un petit peu comme ça, un aventurier. Ça, et ben là, c'est possible. Et on donne aussi... ça c'est parce qu'on remarque des fois des gens ont peur de jouer eux-mêmes, mais en fait on leur donne plein de petites astuces théâtrales, moi je viens du monde de l'improvisation, on donne plein de petites astuces comme ça pour que ce soit très facile et vraiment accessible à tout le monde et où la performance n'a aucune importance parce qu'en fait tout le monde arrive très bien à, à se donner et à faire des choses extraordinaires, et d'ailleurs on répertorie à chaque soirée les punchlines de chacun, voilà, de tout ce qui a été dit dans la soirée pendant le jeu, et on a un beau florilège, voilà, et on les met régulièrement sur notre site parce qu'on trouve ça génial.
C'est sur ces paroles que se termine cette interview. Merci donc à Charlotte et Pierry pour leur témoignage. Je terminerai par une citation du champion de ski Jean-Claude Killy. La vie n'a qu'un charme vrai, c'est le charme du jeu. Salutations à tous nos auditeurs et à bientôt.